Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent, on va parler de douleurs qui feraient grossir et aussi de prévention des blessures avec le collagène. Le titre de l'article que j'ai récupéré s'appelle « 3 repas par jour, c'est peut-être fini ». C'est un article qui est sorti sur la nutrition.fr, de Sarah Amiri, diététicienne et journaliste scientifique, donc qui explique que, donc son introduction elle est simple, hein. Bénéfique pour le poids et la santé, le jeûne intermittent est de plus en plus pratiqué, va-t-on vers la fin programmée des 3 repas quotidiens ? Donc elle explique hein, qu'il y a une pratique planétaire depuis, elle dit, le principe de sauter des repas s'est répandu et la vague est planétaire. Par exemple, la section anglophone consacrée au jeûne intermittent sur le réseau social Reddit compte plus de 800 000 utilisateurs qui comparent leurs pratiques et leurs résultats. Dès 2019, le jeûne intermittent est devenu le régime le plus populaire dans les recherches sur Google. Pourquoi est-il devenu si populaire ? Donc voilà, quelle est la question ? Donc ils expliquent après. Hein. Donc 7 millions d'années de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent n'est pas vraiment une pratique nouvelle dans l'espèce humaine. Il fait partie intégrante de la plupart des grandes religions. Mais bien avant l'époque moderne, il s'est naturellement imposé à nos ancêtres. Pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, nos ancêtres ont fait un ou deux repas par jour, parfois aucun. Il n'y avait pas de famine chez les chasseurs-cueilleurs, mais on mangeait frugalement. Pour le docteur Mark Matson, université Johns Hopkins, les 3 repas par jour plus les snacks n'ont aucune base scientifique. De toute façon, oui, ça a une base. C'est pas une base scientifique, c'est une base. De style de vie, finalement, d'environnement, de style de vie. Donc, les 3 repas par jour sont en fait étroitement liés à la période du néolithique, quand l'élevage et l'agriculture ont permis de stocker la nourriture qu'il fallait autrefois aller chercher quotidiennement. Avec l'émergence de l'agriculture, dit l'épidémiologiste britannique Tim Spector, nous avons subi un lavage de cerveau qui nous fait penser, en nous réveillant le matin, qu'il nous faut quelque chose à mettre dans l'estomac. Si vous ne mangez pas que lorsque vous avez faim, vous constaterez en fait que vous mangez quelques heures plus tard. Voilà. Donc après, il y a pas mal de choses qui sont dites après sur un peu plus sur l'histoire, etc. Globalement, ils partent du principe qu'avec le jeûne, on réduit l'appétit, on réduit la sécrétion de ghréline, cette hormone responsable de l'appétit. Il y a également quelque chose, j'avais vu quelque part qu'il y avait un effet des cétones, en fait, un peu comme durant le régime cétogène quand on faisait le jeûne. Bon, il y a pas mal de choses comme ça. Là, par exemple, ils disent par ailleurs, après 12 à 14 heures sans manger, un phénomène appelé cétose se met en place du fait de la baisse du glucose. Les graisses de réserve sont alors utilisées pour donner des corps cétoniques qui participent à la production d'énergie, comme c'est le cas dans le régime cétogène. Petit avis sur ça, on ne trouve, enfin, comment dire, il est vrai que, je pense concrètement qu'il y a un régime par rapport à un contexte. Plus vous avez de sources de stress dans la journée, moins c'est facile, enfin plus c'est difficile, on va dire plutôt, de faire un ou deux repas par jour. Je m'explique. On n'est pas tous égaux face aux réactions du stress, et enfin, globalement si, mais après il y en a qui ont une plus ou moins forte sensibilité. Et compte tenu de ça, si vous voulez, les réactions physiologiques, par exemple quand vous subissez un fort stress alors que vous êtes à jeun, ça peut avoir un effet sur la glycémie, ça va avoir un effet sur la glycémie, et chez certaines personnes, derrière, elles vont avoir une problématique en fait à retrouver un petit peu d'énergie. Tout simplement parce qu'elles ont fait une hypo. Ouais, en fait, il peut y avoir de ça, quoi. Et c'est vrai que j'avais parlé avec un très grand scientifique il y a quelques années, chercheur au niveau du cerveau, et il m'avait expliqué que souvent c'était le sucre qui permettait justement de ramener à l'équilibre quand on était trop stressé. Après, il faut savoir que le sucre, donc quand il me disait sucre, en fait il parlait de glucose, mais le glucose n'était pas, c'était pas, il fallait pas manger une barre chocolatée ou prendre un carré de sucre. C'était juste qu'il fallait faire remonter le glucose sanguin, donc et puis il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui au niveau de l'organisme ont plus ou moins du mal à switcher entre un état 100% enfin un état où on utilise le contenu de l'estomac entre guillemets, donc ce qu'on a mangé à des fins énergétiques, ou aller détacher des graisses de réserve ou convertir du glucogène en glucose, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont plus ou moins de facilité à obtenir ce processus en fait. Et moi je pense, et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le terme « je pense », mais par l'observation on voit bien quand même que notre style de vie aujourd'hui est plutôt lissé sur la journée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des forts stress dans la vie de tous les jours, en fait on n'a pas besoin de se battre pour défendre un territoire, même si on peut l'imager quand on a des poste à haute responsabilité avec de la concurrence et tout, c'est les batailles modernes, entre guillemets, mais on n'a pas besoin physiquement d'aller défendre son territoire, etc. Et au lieu de ça, on va avoir des petits moments de stress, donc une réunion à programmer, des tâches plus ou moins compliquées au travail, plus les problématiques de la vie sociale, etc. Donc en fait, le stress n'est pas aigu, il est plutôt chronique. Et peut-être que la réponse des repas multiples dans la journée, c'est plutôt une réponse à ce mode de vie-là. Alors, encore une fois, il y a des gens qui font le jeûne intermittent et qui vivent mieux après leur état de stress, etc. Tant mieux pour eux. Mais si on peut observer ça, alors effectivement, le fait d'avoir stocké et tout, et d'avoir permis que l'homme ait pu stocker de la nourriture il y a des années, ça a enlevé une épine du pied, parce que quand on n'a plus besoin de se lever le matin en se disant tiens, qu'est-ce que je vais devoir chasser, cueillir ou voler d'ailleurs pour pouvoir manger. Là, non, il y a un petit stock, donc il y a une forme de vision un petit peu plus long terme. On peut se dire, bon, ben là, j'ai de quoi tenir une semaine, 15 jours, etc. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de lobby, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de publicitaire, etc., qui est d'industrie agroalimentaire, qui nous poussait à manger plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un intérêt à ce qu'on consomme beaucoup, puisque si on consomme beaucoup, on achète beaucoup. Donc si on consomme beaucoup de calories, je veux dire, on achète beaucoup. Donc ça va dans le sens du chiffre d'affaires, etc. Après, c'est une... Pour l'obésité, donc par exemple pour des personnes qui sont obèses aujourd'hui et qui n'ont aucune envie de faire attention à ce qu'elles mangent, qui n'ont pas de notion de manger sainement, etc., le jeûne intermittent peut être une première approche intéressante. Une première approche intéressante dans le sens où on vient réduire l'apport alimentaire pendant un certain laps de temps sur la journée, et après s'alimenter dans une fenêtre de temps plus restreinte, ça peut être intéressant, parce que quand ce sont des personnes qui ne réagissent à rien, à aucun régime, qui n'y arrivent pas en fait, hein, si ça fonctionne et ça leur permet de descendre un petit peu leur poids de corps, ça peut être intéressant. Moi je trouve que la problématique s'est installée quand on a commencé à appliquer des stratégies. Pour moi c'est un peu une stratégie de l'extrême en fait, une stratégie, pas de l'extrême, mais une stratégie pour des personnes, effectivement, si une personne qui fait tout mal se met à faire le jeûne intermittent, ça peut fonctionner quelque temps. Mais une personne qui mange déjà sainement, qui fait déjà du sport et tout, elle n'en tirera pas autant de bénéfices. Et encore une fois, il y a des gens qui tirent des bénéfices de ça pour la perte de poids, mais quelle était l'ampleur de la perte de poids qu'elles avaient ? Si ça marche vraiment fort, ça veut dire qu'il y avait beaucoup à perdre, peut-être, et que les personnes surchargeaient peut-être un petit peu trop. Mais on peut aussi établir un plan alimentaire avec le matin, les collations et tout, et de toute façon, on le voit par observation qu'il y a plein de personnes pour qui ça fonctionne. Et après, chacun trouver son réglage. Il y a des gens chez qui ne pas prendre de petit déjeuner, ils vont se sentir très fatigués. D'autres, au contraire, ils vont se sentir très énergiques. Et je sais que je me répète beaucoup sur ce thème, mais Moi, autour de moi, et je pense qu'autour de vous, c'est pareil, peut-être même vous, on observe quand même que beaucoup de personnes ne prennent pas de petit déjeuner, et c'est pas pour autant qu'ils sont secs, qu'ils sont ultra minces, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, et je pense que oui, pour l'obésité, si ça permet d'enlever toute l'alimentation qu'il y aurait par exemple entre 8h du matin et midi pour des personnes qui sont obèses et qui ont du mal à se mettre au régime, on va dire, à faire un régime plus sain, ben, peut-être que ça va enlever beaucoup de sucreries au petit déjeuner, beaucoup de sucreries lors d'une collation de milieu de matinée. Donc c'est toujours ça de prix, si elle ne modifie pas après le contenu, l'importance calorique qu'il va y avoir dans la fenêtre d'alimentation. Voilà. Et après, sur le sportif, ça c'est très 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 indépendant. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont bien y réagir, de s'entraîner à jeun comme ça, parce que forcément, si vous faites le jeûne intermittent du matin, si vous vous entraînez à jeun et que vous avez compris un peu les règles de la récupération, vous savez qu'il faut manger après l'entraînement, donc vous allez vous entraîner en fin de matinée ou le midi, juste avant de rompre le jeûne. Y a des gens qui sont capables de le faire et d'autres qui sont moins capables de faire ça. Donc, il ne faut pas chercher la méthode qui marche pour certains et l'appliquer à vous. Il faut observer un petit peu l'ensemble des témoignages qu'il peut y avoir sur le sujet et de voir dans lequel vous vous trouvez le plus et surtout être capable de connaître votre point de départ. Êtes-vous obèse ? Avez-vous juste un léger surpoids, c'est-à-dire un surpoids que vous, vous qualifiez de surpoids ? Et en fait, pour qualifier le surpoids, il faut additionner deux choses. La première chose, même trois, comment vous vous percevez ? Donc, quelle est la façon dont vous vous percevez dans le miroir ? Deuxièmement, comment votre entourage, et si vous étiez quelqu'un d'autre, donc vous prenez un échantillon de 10 individus, vous vous placez dans les 10, et si vous étiez quelqu'un d'extérieur à ça, est-ce que vous jugeriez en surpoids ? Évidemment, vous prenez 10 personnes, enfin 9, 10 avec vous, 9 personnes qui ne sont pas des athlètes fitness, hein, vous prenez des gens tout le monde. Et ensuite, le dernier point, c'est selon les valeurs officielles, vous savez, tour de taille, là, pour la graisse viscérale et tout, est-ce que vous êtes dans les clous ou pas ? Essayez de voir ça pour avoir un avis un petit peu plus objectif que simplement émotionnel, parce que c'est vrai que quand on fait que de se regarder dans le miroir en permanence, on se trouvera toujours, à un moment donné, un peu trop gras, ou dans l'autre sens, pour certains, un peu trop maigre, hein, y a de ça aussi. Donc, pour essayer d'avoir un avis objectif, il faut essayer de se détacher de ses émotions, et malheureusement, beaucoup de personnes restent que dans les émotions par rapport à cette observation-là. Voilà. Bon, on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est... Ah oui, je voulais vous parler aussi, ce week-end, j'ai sorti un cours qui s'appelle « 9 outils contre-intuitifs pour vos abdos ». En fait, on va voir, on a vu, parce que c'est sorti à 10h dimanche matin, mais vous avez le lien là dans les notes de l'émission, vous avez un lien, vous cliquez, vous trouverez après sur la fiche du podcast, j'aurai mis en lien. On a vu le mode de pensée moderne, pourquoi la refuser, etc., par rapport à tout ça, les 6 habitudes de vie contre-productives pour vos abdos, vivre avec plaisir et ventre plat. Les questions à vous poser aujourd'hui, affûtez vos abdos avec 9 concepts inédits et vous avez le cours en vidéo, le PDF. La vidéo, donc le cours vidéo dure 1 heure pile d'ailleurs et vous avez toutes les notes ensuite avec les règles de base, les 9 outils pour vous mettre au travail. Donc si ça vous intéresse, allez voir, c'est en lien là juste sous l'épisode. Vous avez un premier lien qui vous amène sur la fiche du podcast et quand vous êtes sur la fiche du podcast, vous avez toutes les références que je cite ici. Donc, le deuxième gros sujet du podcast, c'est la souffrir fait grossir. Alors, ils disent en introduction, alors là, c'est sur cerveau et psycho, vous avez souvent mal au dos, attention, si la douleur venait à être chronique, c'est-à-dire continue pendant au moins 6 mois, vous risqueriez de prendre du poids. Non parce que la souffrance vous empêche de bouger ou de faire du sport, mais parce qu'elle perturberait votre comportement alimentaire au niveau cérébral, vous incitant à manger plus gras et plus sucré. C'est la première fois que des chercheurs le prouvent chez l'homme en identifiant le centre cérébral en cause, le noyau accumbens. Alors, ils disent, on sait depuis longtemps que la douleur chronique, quelle qu'elle soit, s'accompagne d'une baisse de motivation, mais aussi d'une prise de poids incontrôlée, même chez les patients maintenant une activité physique régulière. Donc ça peut vous arriver, par exemple, à vous, si vous faites du sport. Hein. Et que les personnes obèses souffrent plus souvent de douleurs que les gens ayant un poids de forme. Alors, ils disent, hein, Paul G. A. de l'université de Rochester à New York et ses collègues ont donc supposé que tout se passait dans la tête. Et pour le prouver, ils ont travaillé avec une centaine de personnes souffrant de douleurs lombaires aiguës au début de l'étude, qui a duré environ un an. Ou de douleurs dorsales chroniques installées depuis plusieurs années. En leur faisant remplir des questionnaires de plaisir et de douleur et en leur proposant à manger des aliments riches en gras et en sucre, comme des biscuits et de la crème glacée. Par ailleurs, les chercheurs ont observé la structure de l'activité de leur cerveau par une technique appelée scintigraphie cérébrale. Alors, au niveau des résultats, on va voir ce que ça donne. Donc là, ils disent que les patients souffrant de douleurs chroniques et ceux ayant mal au dos, tout au long de l'étude, présentaient un comportement alimentaire altéré. Ils avaient des signaux de satiété réduits. Donc en fait, ils ne sentaient pas la baisse de l'appétit au fur et à mesure où ils mangeaient, quoi. Parce que vous sentez, par exemple, quand vous commencez à manger, au bout de 10-15 minutes, vous commencez à vous dire, ça y est, c'est bon, j'ai plus faim, c'est la satiété, quoi. Après avoir mangé des aliments gras et sucrés, ils n'avaient pas ce signal-là, en comparaison avec des sujets n'ayant pas mal ou de ceux atteints de douleurs lombaires aiguës, mais qui ont disparu avant la fin de l'étude. Donc, quand la douleur persiste, la faim pour ces aliments-là persiste. Ces personnes qui souffraient beaucoup confiaient notamment avoir de plus en plus de difficultés à résister à ces aliments caloriques. Et dans leur cerveau, le noyau accumbens était plus petit que celui des sujets ne présentant pas ou plus de douleur. Or, ils disent que cette structure au centre du circuit cérébral de la récompense joue un rôle essentiel dans la prise de décision, notamment dans l'alimentation hédonique. Hédonique, l'alimentation plaisir, hein, je crois que c'est ça. Le fait de manger, c'est écrit après, le fait de manger par plaisir. Ainsi, selon les chercheurs, la douleur, si elle devient chronique, perturberait la structure du noyau accumbens, qui à son tour favoriserait la consommation d'aliments plaisir, riches en gras, en sucre, etc., d'où un risque d'obésité. D'autres études avaient déjà incriminé le noyau accumbens dans l'obésité, etc., etc. Donc c'est vrai que moi, ce que je vois là dans cet article, c'est qu'on a quelque chose qui se rapproche un petit peu, vous savez, du manque de sommeil. Vous savez, quand on manque de sommeil, on a des pulsions alimentaires un petit peu déraisonnables. Et là, on voit qu'avec la douleur, c'est un peu pareil. Donc on voit en fait finalement que quand on démarre une journée avec un état physiologique et des ressentis pas top, donc fatigue ou des douleurs, là pour le coup, eh ben, il peut se passer des problématiques au niveau de la gestion de son apport calorique. Donc, bon, je sais pas si ça peut être intéressant, mais c'est vrai que quand vous avez, par exemple, un manque de sommeil ou même une douleur dans la journée, c'est pas le moment de vous faire... Vous savez, quand on a le choix de faire des plats, vous savez qu'il faut déconstruire, en fait, la nutrition. La nutrition commence par votre liste de courses. La liste de courses que vous allez faire, plus ensuite le respect de cette liste de courses quand vous êtes au magasin, ce qui va vous permettre de faire entrer dans vos placards des aliments de bonne qualité et dans votre frigo des aliments de bonne qualité. Ça, c'est la base de la base de la base de la base, puisque vous avez les matériaux pour manger sainement. Après, l'ordre et tout, le nombre de repas, on verra plus tard. Mais vous avez déjà mis les fondamentaux. Vous avez composé votre intérieur avec des aliments de bonne qualité. Ensuite, quand vous allez cuisiner, la cuisine, de respecter une recette avec vos ratios, vos bons ratios de ce qu'il vous faut, par exemple en glucides, en graisse et puis en protéines, si vous respectez ça, même si vous avez une douleur aiguë ou si vous manquez de sommeil, Au pire des cas, vous allez manger un peu plus d'aliments sains. Mais vous n'allez pas manger de mauvais aliments puisqu'ils n'existent pas chez vous. Donc c'est pour ça qu'on peut prévenir en fait ce genre de problématique, parce que personne n'est à l'abri de manque du sommeil, personne n'est à l'abri d'une douleur chronique ou même aiguë qui pourrait arriver. Donc c'est intéressant de préparer le terrain. Se baser sur « je vis en fonction d'avoir comme point de repère les moments où tout va bien », où j'ai beaucoup de motivation, où j'ai très bien dormi et où j'ai pas de douleur, c'est quand même vivre un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où tout le monde, on est fatigué, on va se blesser un petit peu, ou même on va bien dormir, mais dans une mauvaise posture et se réveiller avec le bas du dos un peu contracté, un peu douloureux. Et c'est dommage, justement, ces jours-là, de subir, en fait, ça. De se dire, j'ai eu mal, donc je vais manger les gâteaux que j'avais achetés parce que j'avais envie de me faire plaisir ou des choses comme ça. Alors que ça, c'est ce genre de choses peut empêcher justement de maintenir une bonne hygiène de nutritionnelle, on va dire. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi la nutrition est quand on dit elle est préventive, on a souvent l'idée en tête qu'elle est préventive parce qu'en donnant des aliments de bonne qualité, on va réduire les risques de certaines pathologies. On ne va pas supprimer tout, il ne faut pas être complètement rêveur non plus, mais on va quand même faire, globalement, on va nourrir ses cellules avec, correctement. Donc c'est préventif dans ce sens-là, mais c'est aussi préventif dans le sens où, dans notre style de vie, c'est-à-dire que quand on mange sainement et quand on compose son intérieur, donc ses placards et tout d'aliments sains, on prévient des moments de faiblesse et des moments de douleur. Ça peut être très intéressant de voir aussi la prévention, la nutrition sous cet angle-là. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de style de vie, et ceux qui ont lu et écouté le gros cours que j'ai fait là sur le, avec mon petit ouvrage là sur la perte de graisse, hein, que je vous recommande d'ailleurs si vous ne l'avez pas suivi. Donc c'est, vous avez du texte plus, je crois qu'il y a 3 heures d'audio avec, enfin je vous le recommande. Il y a une grosse partie sur le style de vie parce qu'à mon sens, c'est le grand oublié de la forme physique, alors que, et tout le monde s'acharne l'entraînement, la nutrition, alors c'est très important, j'en parle beaucoup aussi, mais il y a ce tiers de style de vie que tout le monde néglige et qui est pourtant hyper important, puisque c'est quand même notre style de vie qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Si vous êtes sportif, si vous êtes carriériste, si vous êtes, je sais pas, peu importe, c'est votre style de vie, les choix qu'on a fait tous, qui nous ont tous conduits à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Bon, j'avais envie de traiter juste la question d'un auditeur rapidement parce qu'elle est rapide. Et donc il me disait: bonjour, j'aimerais connaître ton avis sur le collagène dans l'optique de prévention sur les douleurs pour les sportifs. Merci. Le collagène est vendu comme tel, en fait, hein. Il faut surtout pas croire qu'il est là pour traiter, guérir. Il est plutôt là pour prévenir, en fait. Faut pas oublier que le collagène, en fait, il participe à la structure de la peau, des tendons, etc. Et donc, ça va permettre finalement d'avoir certainement une meilleure élasticité, une meilleure régénération de leur structure, etc. Et donc, potentiellement, moins de risques de blessures. Donc, en préventif, oui. Comme beaucoup de personnes, j'en ai utilisé. Moi, j'en utilise pas dans mon quotidien, hein, mais j'en ai utilisé à des moments où ça s'installait de manière chronique, une petite douleur, et c'est pas finalement la bonne solution. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne sert quasiment à rien quand la blessure est... Enfin, à rien, je pense pas que ça ne sert à rien, mais en tout cas, pour avoir moins mal en termes de... pour faire baisser la douleur, ça n'agit pas, enfin en tout cas pas chez tout le monde. Il y a des gens qui disent que oui, mais pas chez tout le monde. Et bien par contre, ça va aider forcément, puisque si vous améliorez la régénération de la structure, ça va aider. Après, c'est encore une fois, c'est un peu comme les vitamines. Vous savez, les vitamines, on a assez peu de sensations immédiates. Et c'est plutôt du préventif ou du non-ressenti. Le collagène peut devenir intéressant, surtout si vous êtes plutôt du style à manger que de la viande maigre, etc. Si vous avez plus de chances d'apporter du collagène par l'alimentation, si par exemple vous mangez régulièrement du pot-au-feu avec un os à moelle, du bouillon de poule, un poulet rôti et que vous rongez les os, etc., vous aurez plus de chances d'obtenir du collagène comme ça que si vous mangez que du blanc de poulet sans la peau, du poisson, etc., quoi. Après, il faut savoir que le collagène marin ou végétal, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de données qui montrent que c'est efficace. Préférez le collagène, du règne animal, plutôt, je crois, je ne sais pas si c'est bovin ou de porc ou peu importe, mais les études, surtout, elles ont été faites avec ça, la gélatine, en fait, hein, tout simplement. Et après, pour les douleurs, pour la prévention sur les douleurs, La première chose déjà, c'est que, dites-vous bien une chose, c'est que n'importe quelle douleur qui commence juste à montrer le bout de son nez, qui n'est pas encore handicapante à l'entraînement, va le devenir si vous ne changez pas de stratégie. C'est-à-dire que si vous commencez à ressentir une petite douleur dans l'épaule, une petite douleur à l'avant-bras, une petite douleur au poignet, etc., c'est assez peu probable qu'en maintenant votre programme d'entraînement comme il est aujourd'hui, et, ou votre stratégie de récupération comme elle est aujourd'hui, que ça va disparaître. Donc, essayez de détecter, d'avoir un radar un petit peu plus sensible aux premiers signes de douleur et de vous dire « Ok, là, ça commence à tirer un petit peu. Est-ce que c'est parce que je sursollicite pas cette zone ? Est-ce que c'est parce que je ne vais pas faire trop de stretching durant l'entraînement, donc de trop de phases négatives, en fait, vous savez, l'étirement sur le mouvement. Et donc, du coup, est-ce que j'abîme pas cette zone séance après séance ? Et est-ce que je manque pas de récupération concrètement ? Est-ce que mon programme, il a changé finalement, ou il a pas changé ? Puisque s'il a pas changé, c'est peut-être cet axe de travail qui commence à être usé. Et voilà. Après, moi, je vous recommanderais d'aller voir, pour ceux qui ont des blessures comme ça, ou qui en ont eu, qui ont cette crainte d'en avoir à nouveau, ou qui veulent sortir d'une blessure, j'avais fait un cours qui s'appelle « La blessure en musculation, 6 étapes pour s'en sortir ». Je vous mets le lien là dans les notes, justement. Allez le voir, allez cliquer dessus, regardez si ça vous concerne ou pas, pour voir si ça peut vous aider. Parce que, enfin, comme vous, certainement, moi j'ai eu des blessures, hein, que ça soit épaule, et surtout l'épaule. Moi, épaule, c'est vraiment ce qui m'a traîné le plus longtemps. Et on a beau tester tout un tas de choses, de compléments, de machins, à un moment donné, il faut passer à l'action, il faut faire des actes, il faut agir, en fait. Et ces actes, je les détaille justement pour que vous puissiez, vous aussi, en fait, prendre un chemin plus cohérent. Parce que c'est vrai que beaucoup se sont hissés, en fait, dans le domaine de la blessure pour vous donner des... Ben, vous vendre des choses, des compléments, des trucs. Mais à un moment donné, faut avoir une réflexion globale. Ou parfois, on fait appel à d'autres personnes que juste ces méthodes d'entraînement, de stretching et tout ça, quoi. Voilà. Donc, je vous donne les étapes. Vous allez voir, vous verrez. Mais bon, le collagène en prévention... Moi, je suis plutôt pour, donc c'est pour ça que je te disais question rapide, réponse plus ou moins rapide. C'est très bien en préventif, hein, si tu veux l'utiliser. C'est justement comme ça, à mon sens, qui fonctionne le mieux, en préventif en fait. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez aller voir justement ce dont j'ai parlé, lire les articles dont je vous ai parlé, allez voir dans les notes, là, vous avez les articles qui sont en français. Vous avez également les 9 outils contre-intuitifs pour vos abdos, pour les faire apparaître, évidemment. Vous l'avez en lien également dans les notes de l'émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous basculez sur le site, ben, on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, à plus tard. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours, hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, il y a, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.